Vous écoutez, on lit pour vous.
Plein feu sur les vagues de chaleur. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 juillet 2024 dans la presse. Comment protéger la santé des populations face aux vagues de chaleur? Quel sera leur impact sur l'agriculture et les réseaux électriques? Un congrès tenu au début de juillet à New York a rassemblé des sommités du monde entier pour discuter de ces questions et pour comprendre les phénomènes météorologiques inusités découlant des changements climatiques. Les mystères des vagues de chaleur. À l'été 2003, un peu plus de 3000 morts liées à la chaleur ont été enregistrées en France. Mais quand les épidémiologistes se sont penchés sur le dossier, à partir de l'excès de mortalité par rapport à la normale, le bilan a grimpé à 15 000 morts. Quelle que soit la qualité du système d'enregistrement des décès, le décompte des morts attribuables à la chaleur est toujours de 5 à 10 fois inférieur au bilan réel, a dit Christopher Callahan, écologiste de l'Université Stanford, à la conférence sur les vagues de chaleur de l'Université Columbia à New York. Ça s'est produit avec la vague de chaleur de Chicago en 1995 et avec celle de l'État de Washington en 2021. C'est un mystère qu'il faut élucider. Pour le moment, le coupable le plus probable est une augmentation des effets de la pollution avec la chaleur, peut-être à cause de réactions chimiques ou météorologiques. M. Callahan a vérifié si d'autres variables associées à la chaleur, notamment l'humidité, la température nocturne et les jours non consécutifs de canicule, pourraient expliquer cet écart. Ce n'est pas le cas. Le même phénomène est aussi observable au Québec. Selon deux études de l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, discutées au Congrès de New York, les vagues de chaleur de 2010 et 2018 ont fait de 100 à 150 morts, mais l'excès de mortalité attribuable à la chaleur chaque année est de 470 morts. L'humidité est au cœur d'un autre mystère des vagues de chaleur. Les physiologistes considèrent que l'humidité élevée est très mauvaise pour la santé, mais les épidémiologistes ne voient pas d'effet négatif sur la mortalité d'une humidité élevée durant les vagues de chaleur, explique Jane Baldwin, météorologue de l'Université de Californie à Irvine. Madame Baldwin s'est embarquée dans un projet de recherche pour résoudre cette énigme. Pour le moment, il semble qu'une partie de la différence entre la mortalité prédite par les physiologistes et celle qu'observent les épidémiologistes lors des vagues de chaleur avec humidité élevée pourrait être attribuable à un effet protecteur d'une humidité élevée dans les jours précédant la vague de chaleur. Elle va maintenant vérifier si l'humidité pourrait être néfaste seulement dans les îlots de chaleur urbains ou à l'intérieur des logements sans climatisation. Elle note aussi que la plupart des données épidémiologiques sont recueillies dans des pays riches, qui ne sont pas dans les tropiques, où les effets conjugués de la chaleur et de l'humidité sont les plus importants. Ambivalence sur la climatisation. Lors de la séance sur la santé du Congrès de l'Université Columbia, plusieurs présentateurs ont cité un chiffre d'un bilan des effets climatiques sur la santé publié en 2023 dans le Lancet. Une augmentation de près de 5 fois du nombre de morts liées à la chaleur dans le monde. Ce chiffre fait toutefois abstraction de la possibilité d'augmenter le nombre de logements munis de climatisation. La présentatrice principale, keynote, de la séance sur la santé, l'épidémiologiste Christy Ebby de l'Université de Washington, a expliqué pourquoi. La climatisation diminue la mortalité des vagues de chaleur, mais nous pouvons sauver des vies sans la climatisation, a dit Madame Ebby. utiliser de la climatisation augmente les émissions de gaz à effet de serre, ce qui va empirer les changements climatiques. La solution, selon elle, est plutôt de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, GES. Après la présentation de Mme Eby, une participante a demandé comment conjuguer l'urgence de la situation avec la prescription de diminuer les émissions de GES, qui ne va pas régler rapidement le problème des vagues de chaleur plus fréquentes. Mme Eby a alors indiqué qu'il faut privilégier les systèmes d'alerte permettant aux populations vulnérables à la chaleur, par exemple les personnes âgées, de se mettre à l'abri dans des endroits publics plus frais, et aussi d'obliger le remplacement des toits foncés par des toits blancs ou verts. Une étude de 2021 du Lancet a indiqué que la climatisation avait permis en 2019 de réduire de 68 000 à 21 000 le nombre de morts attribuables à la chaleur aux États-Unis, mais seulement de 142 000 à 72 000 en Chine et de 49 000 à 47 000 en Inde. L'agriculture flexible. Nathan Muller est l'un des papes de l'adaptation agricole au changement climatique. Ce biologiste de l'Université d'État du Colorado publie depuis une quinzaine d'années des prévisions de leurs impacts sur la productivité du secteur. Mais plus récemment, il a constaté qu'en retournant dans le temps, on ne mesure pas cet impact des changements climatiques. Ça signifie que les agriculteurs se sont adaptés en investissant dans des technologies pour poursuivre la progression du rendement, a dit M. Muller. Mais cela constitue quand même un coût. Les adaptations à venir seront toutefois plus coûteuses, allant de l'irrigation de précision à la biotechnologie pour sélectionner des espèces végétales et animales mieux adaptées à une planète plus chaude. Les pannes climatiques. Les changements climatiques ne vont pas seulement faire bondir la consommation d'électricité liée à la climatisation. Ils vont aussi réduire la capacité du réseau électrique de plusieurs manières, a indiqué Andrea Stade, ingénieur environnemental à l'Institut de recherche sur l'électricité, ERPI, une ONBL américaine. Parmi les problèmes, la baisse de capacité des batteries à cause de la chaleur, ou alors la climatisation nécessaire pour les garder au froid, l'efficacité moins grande des transformateurs du réseau électrique, l'allongement des fils électriques soumis à des courants proches de leur capacité vu l'augmentation de la demande et la difficulté de refroidir les centrales nucléaires. En 2003, la moitié des centrales nucléaires françaises avaient temporairement été hors d'usage à cause de la canicule. En savoir plus, source The Lancet, 345 000, nombre de morts liées à la chaleur dans le monde en 2019 chez les plus de 65 ans, 5%, augmentation du nombre de morts liées à la chaleur dans le monde entre 2000 et 2019 chez les plus de 65 ans. 195 000, nombre de morts liées à la chaleur évitées par la climatisation dans le monde en 2019 chez les plus de 65 ans. 370%, augmentation du nombre de morts liées à la chaleur dans le monde d'ici 2050, sans aucune adaptation. Source, INRS, 15 millions, coûts de santé directement attribuables à la chaleur chaque année au Québec. 4 milliards, coûts en souffrance et douleur attribuables à la chaleur chaque année au Québec. 2 à 4 fois, augmentation des coûts de santé attribuables à la chaleur d'ici 2050 au Québec, sans adaptation. C'était Plein feu sur les vagues de chaleur, un texte de Mathieu Perrault, paru le 21 juillet 2024, dans la presse.
Zilon, légende urbaine. Une chronique d'André Constantin Passiour, paru le 15 juin 2024 dans le magazine Fugue. En collaboration étroite avec la Société de développement commercial du village, SDC, on pourra se promener sur Atateken, côté ouest, entre les rues Sainte-Catherine et Robin, et admirer des œuvres du graffiteur, dessinateur et peintre Zilon. Du 27 juin au 1er octobre 2024, 22 œuvres, des reproductions, seront présentées au public. Cette exposition est le fruit de la recherche et du travail acharné de Simon Duplessis, le commissaire de cette exposition et ami personnel de l'artiste durant une bonne quinzaine d'années. À un an, presque jour pour jour, du décès de Raymond Pilon, alias Zilon, mort à 67 ans, il sera agréable de déambuler sur la rue Atateken et de regarder les créations vibrantes de cet artiste multidisciplinaire minutieux que certains, certaines, surnommaient le Cocteau des ruelles, en référence à l'artiste français Jean Cocteau. Pendant plus de 40 ans, Zilon a créé et exposé ses œuvres sur des murs, dans des galeries d'art, lors d'événements et de soirées endiablées dans des bars, entre autres. Il était en fait le premier artiste du street art à Montréal. Tellement qu'on ne comptait plus le nombre de murales qu'il a dessinées au cours de tant d'années. En plus de contribuer par son art à la lutte contre le VIH-Sida dans laquelle il était impliqué. Dans le temps des fêtes, j'étais avec des amis et en faisant une rétrospective de l'année, on s'est remémoré la disparition de notre ami Zilon, évoque le poète Simon Duplessis. Bien sûr, on a parlé de Zilon lui-même, de sa personnalité, mais on a jasé aussi qu'il faudrait faire quelque chose pour lui rendre hommage. Dans la communauté LGBTQ+, beaucoup de gens se souviennent encore des soirées où il dessinait en direct et aussi de ses dessins dans les toilettes qui étaient devenus sa marque aussi, en quelque sorte. Je collabore au Festival Montréal en art depuis quelques années, donc je trempe dans le milieu des arts et je me suis dit « Pourquoi ne pas consulter la SDC du village et leur proposer un événement sur les œuvres de Zilon ?» De là est née l'idée de cette exposition sur Atateken. Comme on dit, je suis arrivé au bon moment. Simon Duplessis rend donc visite à la directrice générale de la SDC, Gabrielle Rondy, dans les premiers jours de janvier 2024 pour lui en parler. Je voulais lui proposer quelque chose pour l'espace de l'ancienne galerie Blanc devenue la place du village, entre Wolfe et Atateken. Finalement, Gabriel, très enthousiaste, me propose plutôt de faire quelque chose sur la rue Atateken même. Elle me propose aussi de l'organiser. Ce serait un projet porté par la SDC du village, avec le financement de l'arrondissement de Ville-Marie et en partenariat avec le Festival Montréal en art. Que demander de mieux? J'étais à la fois excité et nerveux puisque c'est la première fois que je m'occupe d'un tel projet, dit Simon Duplessis. Et ici, l'idée d'occuper la rue Atateken n'a plu à l'arrondissement et à la SDC parce que cela comportait un aspect de pouvoir tenir d'autres expositions publiques. Il s'agissait d'instituer quelque chose de plus permanent et de voir au-delà de l'exposition sur Zilon, précise-t-il. Le but était de réutiliser les structures qui avaient servi auparavant à la SDC, mais en les modifiant selon les nouvelles normes de l'arrondissement pour qu'elles servent pour les années à venir. De là, une demande de subvention au développement économique de l'arrondissement de Ville-Marie a été faite dans l'optique de la revalorisation de la rue Atateken, spécifie-t-il. Je me suis embarqué dans quelque chose que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais fait encore. Donc je me suis entouré de gens qui connaissaient mieux ça que moi et qui m'ont guidé dans les demandes de subventions, les règles à suivre, etc., indique humblement celui qui a monté, pourtant, il y a quelques années, l'événement « Les Mentales expirées », avec des auteurs artistes durant les célébrations de Fierté Montréal. Les gens ont été très réceptifs à l'idée d'une exposition sur Zilon. La collaboration de la SDC du village a été fantastique dès le départ. Zilon a marqué bien des soirées dans les bars du village. Je suis content que cette exposition puisse avoir lieu dans le village même, dit-il. Mais attention, ce n'est pas dans l'optique d'une rétrospective de Zilon. Cela va donner une bonne idée au public des différents médiums utilisés par Zilon, que ce soit de l'encre, des pastels, des acryliques, etc. Ce sont différents styles de Zilon que les gens pourront voir ici, poursuit Simon Duplessis. On retrouvera donc des panneaux de 3 pieds par 4 pieds. Le tout dans des teintes de noir, rouge, gris et blanc, qui sont des couleurs utilisées très souvent par Zilon, alors que le graphisme reste simple et sobre pour mettre en évidence les œuvres elles-mêmes. D'une part, il y a des reproductions, mais il y a également des portraits de Zilon réalisés par l'artiste et photographe Jean Chesnay, un autre grand ami de l'artiste décédé. Jean Chesnay avait plein de clichés de Zilon captés dans des événements, des soirées, etc., explique-t-il. Il y a là de beaux portraits de son visage. On voulait montrer cet aspect-ci aussi de la vie de Zilon. Il y a là quelque chose de plus intime en quelque sorte. Mais encore là, ce n'est pas une rétrospective de sa vie ou de sa carrière. C'est plutôt un hommage à la personne qu'on a connue, qui était notre ami. Et c'est une exposition approuvée par la succession de Zilon. On y verra par la même occasion des textes d'hommage à l'artiste par certaines de ses amies les plus proches. Le grand artiste Armand Vaillancourt, l'animatrice Geneviève Borne, l'artiste peintre Cédric Taillon, avec un beau texte très senti, l'artiste Éric Godin, l'ex-agente de Zilon France Quentin, l'artiste, agente et organisatrice Kat Corrick, les artistes bien connus dans la communauté LGBTQ+, que sont Yvon Goulet et Patricia Klimov, ainsi que Sterling Downey, le conseiller municipal du district des marchés Crawford à Verdun et artiste graffiteur lui-même et organisateur du festival graffiti Under Pressure de Montréal. Ils ont tous été ravis de pouvoir collaborer à cette exposition, continue Simon Duplessis. Yel tenait à lui rendre hommage. Cela m'a beaucoup conforté dans mes idées de faire quelque chose pour perpétuer la mémoire de Zilon, puisque presque un an après sa mort, on n'avait encore rien réalisé en ce sens. Nous voulions que l'exposition se prolonge jusqu'au 1er octobre pour que cela puisse s'inscrire dans la programmation des Journées de la culture, 27, 28 et 29 septembre, et donc que cela fasse partie de ce circuit, dit Simon Duplessis. Ce que j'ai appris dans ce projet-là, c'est en partie ce que Zilon m'a appris aussi. Ce travail d'organisation, parce que cela ne paraissait pas, mais il était organisé, mais aussi ce travail de minutie, du sens du détail qu'il avait, dit-il. C'est une belle façon de lui rendre hommage, je trouve. Même mort, il continue de m'en montrer. Zilon, légende urbaine, est donc une exposition hors norme et qui sort des sentiers battus parce que ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait si c'était présenté dans une galerie d'art, par exemple. Il y aura là un petit quelque chose d'intimiste et un regard un peu personnel sur Zilon posé par plusieurs amis de l'artiste. C'est le premier projet d'une série et qui jette les bases d'un certain hommage à la mémoire de Zilon. Nous restons ouverts, ouvertes aux collaborations futures, de conclure Simon Duplessis. C'était « Zilon, légende urbaine », une chronique d'André Constantin Passiour, paru le 15 juin 2024 dans le magazine Fugue.
Les guides touristiques, ces amoureux de Montréal, un texte d'Annabelle Caillou, paru le 17 juillet 2024 dans Le Devoir. Quand la saison estivale bat son plein à Montréal, elle accueille chaque année environ 11 millions de visiteurs. Un guide de voyage à la main ou accompagné d'un guide touristique certifié, ils arpentent les rues de la métropole pour en découvrir tous les attraits. Mais qui sont ces passionnés qui racontent la ville et en font la promotion auprès des voyageurs? Le Devoir a rencontré deux d'entre eux. Devant vous, c'est bien sûr la basilique Notre-Dame de Montréal. Vous verrez, l'intérieur s'inspire beaucoup de la Sainte-Chapelle à Paris, raconte Pierre Tomaszewski, au petit groupe de 9 Français formant un demi-cercle autour de lui. Sa voix grave dissipe le brouhaha ambiant de la populaire place d'armes à quelques pas. Le guide touristique accapare en quelques secondes toute l'attention des visiteurs. Dans la prochaine heure, il les amènera découvrir d'autres incontournables du Vieux Montréal, l'Hôtel de Ville, le Marché Bon Secours ou encore l'édifice de la Banque de Montréal. Cette visite, Pierre pourrait la donner les yeux fermés tellement il la connaît par cœur. Il ne compte même plus le nombre de fois qu'il l'a offerte. Oui, je radote, plaisante-t-il, mais quand on aime, on ne compte pas. Pierre ne s'en cache pas, il est depuis toujours en amour avec Montréal. J'aime son architecture, son patrimoine, ses ruelles, ses petits commerces de quartier, ses parcs, son ambiance, explique au Devoir celui qui a grandi dans le quartier Villemar et vit aujourd'hui dans Milton Park. Et c'est son amour inconditionnel pour la métropole qui l'a conduit à devenir guide touristique en 2016, à l'âge de 54 ans. Pierre aime dire qu'il a alors commencé sa deuxième vie, lui qui a travaillé pendant 37 ans pour la brasserie Molson Coors. J'y ai pensé quand j'ai su que je pourrais prendre ma retraite à 55 ans. J'avais pas envie de passer mes journées à me promener seul sur le Mont-Royal ou à jouer au golf. Je voulais être en contact avec les gens, bouger et être sur le terrain. Je me suis dit, pourquoi pas allier ça à ma passion pour Montréal? J'aurais même pas l'impression de travailler, raconte-t-il. Et c'est peu dire quand on voit l'emploi du temps chargé du retraité. De mai à octobre, quand la saison touristique bat son plein, le sexagénaire revêt ses habits de guide 6 jours sur 7. L'agence Guidatour, avec laquelle il travaille, lui permet de donner des visites tantôt à pied, tantôt en bus, tantôt en voiture privée, comme guide accompagnateur. J'aime rencontrer les gens et partager avec eux ma passion pour Montréal. Mais ma plus grande satisfaction, c'est quand il y a un Montréalais dans le groupe et qu'il ressort de ma visite en ayant appris de nouvelles choses. Ça me touche en plein cœur, confie Pierre tout sourire. Partager une passion. Ma mission est réussie quand les gens disent en fin de visite qu'ils ont hâte de revenir, raconte de son côté la guide ukrainienne Galina Likojva, âgée de 38 ans. Arrivée à Montréal en 2016, par amour pour la langue française, Galina est rapidement devenue guide bénévole au musée du Château Ramsay, une façon pour elle de pratiquer son français tout en apprenant davantage sur son nouveau chez-soi. Je me disais que plus j'allais connaître l'endroit où j'habite et ma société d'accueil, mieux je me sentirais chez moi. Ça a fonctionné et j'ai surtout pris goût au métier. Aujourd'hui, en plus d'être interprète judiciaire à temps partiel, Galina organise des visites à pied dans tout Montréal. Elle a même créé en 2019 une visite du quartier de la Petite Ukraine, dans le secteur Rosemont, dont les profits sont versés, depuis le début de la guerre dans ce pays, à un organisme local préparant des trousses de premiers soins. Elle est aussi guide accompagnatrice pour des groupes de voyageurs étrangers ou des groupes scolaires. J'aime être guide, ça me permet de parler français tous les jours, d'être en contact avec des gens du monde entier et d'en apprendre toujours plus sur Montréal et le Québec, confie-t-elle. Sa bibliothèque ne compte pas moins de 300 livres sur l'histoire de la métropole et de la province. « Ma nouvelle patrie est devenue ma nouvelle passion », ajoute-t-elle. Malgré son jeune âge et l'aspect répétitif du métier, elle estime avoir trouvé un bel équilibre pour rendre son quotidien stimulant encore de longues années. « Je continue sans cesse d'apprendre et de m'informer sur les lieux qui m'entourent. Il suffit de varier les visites et pourquoi pas aussi le terrain de jeu », indique-t-elle. Son prochain défi? Obtenir son permis de guide touristique dans la ville de Québec pour accompagner les voyageurs dans la vieille capitale. Comment devenir guide? Montréal fait partie des rares villes en Amérique du Nord, avec Québec et New York, à exiger un permis pour exercer le métier de guide touristique. Le permis est valide un an et coûte 105 $. Pour l'obtenir, il faut suivre une formation de 240 heures donnée par l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ITHQ. En plus d'enseigner des techniques de guidage et l'histoire de Montréal, celle-ci intègre des sujets comme l'urbanisme, l'architecture, l'art public, la politique ou encore l'immobilier. Les guides touristiques sont des travailleurs autonomes gérant leur horaire à leur convenance. Plusieurs font affaire avec des agences de voyage qui requièrent leurs services pour des groupes de voyageurs, souvent étrangers. Selon Michel Ménard, président de l'Association professionnelle des guides touristiques de Montréal, APGT, un quart des guides exercent le métier à temps plein. La moitié d'entre eux le font à temps partiel avec un autre emploi à côté. Le quart restant pratique le métier à l'occasion. Les qualités d'un guide. Susciter l'intérêt. Être guide, c'est être historien, comédien, professeur, humoriste aussi. Tu peux pas juste réciter un texte d'une voix monotone, tu dois intéresser les clients, soutient Pierre Tomaszewski. Être curieux, parce que la ville change constamment, il faut rester informé en lisant les médias ou des livres pour approfondir ses connaissances. Galina Likojva aime même jouer la touriste en suivant elle-même certaines visites guidées. Être ouvert. Pour créer un lien rapide avec ses clients, Galina Likojva s'intéresse beaucoup à leur vie, leurs origines, leurs traditions afin de faire des parallèles avec Montréal et rendre ses visites plus intéressantes. S'adapter. Donner une visite à des adultes, c'est pas la même chose qu'avec des enfants. Accompagner des Français, c'est différent que d'être avec des Américains. Il faut cerner rapidement les attentes du groupe, ses intérêts et sa façon de voyager, note Pierre Tomaszewski. Être patient. Une bonne visite ne dépend pas seulement du guide, mais aussi du groupe de visiteurs. Il arrive encore à Pierre Tomaszewski de tomber sur des clients qui lui baillent en plein visage ou des enfants agités qui n'écoutent pas. T'as beau essayer de t'adapter, parfois ça marche pas. Faut être patient dans ces temps-là. C'était « Les guides touristiques, ces amoureux de Montréal », un texte d'Annabelle Caillou paru le 17 juillet 2024 dans Le Devoir.